Cube Radio. Yasmine Abdel-Fadel. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe.
Cube Radio, Cube Radio.
Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Quelle horreur! L'horreur qui frappe encore dans notre quotidien, comme si ce n'était pas assez, comme si Amqui n'était pas assez, comme si la garderie de Sainte-Rose n'était pas assez. Aujourd'hui, ben, c'est un jeune de 19 ans qui aurait abattu des membres de sa famille à coups de couteau, qui les aurait poignardés chez eux, qui ont été retrouvés sans vie à Rosemont. Tous les jours, on apprend que des personnes prises avec des problèmes de santé mentale passent à l'acte, pas envers elles-mêmes, mais envers des proches et des inconnus, souvent des vies arrachées. Et on se demande, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? À part avoir, évidemment, nos pensées qui accompagnent les familles des victimes, de penser à leur famille, de présenter nos condoléances et nos sympathies, je trouve qu'on commence à trop avoir la phrase « ben mes sympathies, mes condoléances, c'est un drame, c'est l'horreur ». Au-delà de ça, là, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut faire comme société pour que le meurtre ne soit plus une option pour ceux qui souffrent? Souffrir n'est pas une raison de pour tuer. On peut-tu le dire? 3 personnes sont décédées aujourd'hui, ont été arrachées à la vie par quelqu'un de leur propre famille dans une scène que l'on décrit comme étant à glacer le sang. On a un sérieux examen de conscience à faire. Il va falloir qu'on se regarde dans le blanc des yeux puis qu'on attaque les questions de santé mentale parce que c'est injustifiable, c'est inexcusable, inexplicable. Bienvenue à Cube Radio.
Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel.
Cube Radio. Cube Radio.
Vous êtes mère ou père de famille, vous avez des économies, vous voulez refaire votre cuisine, votre salle de bain ou même construire votre maison. Vous avez tellement travaillé fort et économisé chaque sou. Et vient une femme qui se dit entrepreneur, qui vous promet des travaux faits selon les règles de l'art, faits selon de bonnes qualités, avec des entrepreneurs aguerris et expérimentés. Vous lui avancez les fonds. Vous vous rendez compte que vous êtes plusieurs 10 clients, là, je mets des guillemets, qu'elle aurait floué des centaines de milliers de dollars. Quoi faire avec ça? Il y a des personnes, puis on le voit dans le Journal de Montréal, qui aujourd'hui se retrouvent sans argent. Leurs économies pour lesquelles ils ont travaillé ont été fraudées par une entrepreneure qui semble être louche, pas très empathique devant la situation de ses victimes. Qu'est-ce qu'on doit faire et comment se prémunir devant ces entrepreneurs, ces faux entrepreneurs? Parce que les entrepreneurs, ils savent la valeur de l'argent puis ils ne cherchent pas à frauder le monde. Comment se prémunir? Comment se protéger? Comment faire affaire avec un entrepreneur en construction qui puisse être respectable? On en parle avec Charles Tanguay, responsable des partenariats stratégiques et des relations avec les médias à l'Office de la protection du consommateur. Bonjour, M. Tanguay.
Bonjour, Mme Abdel-Fadel.
Est-ce que c'est habituel de voir la situation qui est relatée aujourd'hui dans le Journal de Montréal de cet entrepreneur qui aurait fait plusieurs victimes?
Heureusement, non. Enfin, j'ose croire que non. Ce sont des situations plutôt exceptionnelles, évidemment, éminemment tristes et déplorables. Il faut voir qu'il y a un encadrement des constructions de bâtiments résidentiels neufs au Québec et il y a une garantie, la GCR, la garantie résidentielle, est avec cette garantie, les dépôts que l'on fait lors de l'achat d'une propriété à construire, les dépôts sont protégés, en tout cas jusqu'à concurrence de 50 000 Mais évidemment, il peut y avoir des cas d'entrepreneurs qui ne respectent pas la réglementation ou de personnes qui veulent faire de l'autoconstruction, c'est-à-dire gérer eux-mêmes leur chantier et aller embaucher des entrepreneurs à la pièce. Donc, il peut y avoir toutes sortes d'autres cas de figure où il n'y a pas les protections requises. Et évidemment, dès lors qu'on parle d'une entreprise qui ne respecte aucune règle, ben, il n'y a plus rien sur quoi on peut se fier, finalement. C'est comme, et c'est une règle assez générale. Pour toute entreprise, on ne verse pas à l'avance des sommes importantes. Quelle que soit l'entreprise, quel que soit le service que vous demandez ou le produit que vous achetez, payer à l'avance, c'est jamais une bonne solution parce que les entreprises peuvent ouvrir et fermer comme bon leur semble. Et en construction en particulier, il y a beaucoup de roulements de dénomination d'entreprise. Oui. Souvent, un gros entrepreneur va ouvrir une nouvelle compagnie simplement pour un chantier spécifique et va évidemment après fermer cette compagnie. Et ça peut être parfois justement pour fuir ses responsabilités, limiter les risques de poursuite par la suite. Et donc, ça peut être un signe de mauvaise qualité de construction, entre autres.
Mais Monsieur Tanguay, parlons de TP Maison, là, l'entreprise ici qui est en cause dans l'article du Journal de Montréal, puis ses clients qui, finalement, ont été complètement abandonnés par cette entreprise. Est-ce que l'OPC, l'Office de la protection du consommateur, avait reçu des signalements?
Oui. J'ai pas le chiffre, c'est quelques-uns seulement, peut-être en bas d'une dizaine. Faut voir que la loi sur la protection du consommateur, au chapitre 6, prévoit une exclusion du domaine immobilier qui donc soustrait les constructions, la location ou la construction d'immeubles de plusieurs chapitres de la loi sur la protection du consommateur. Donc, a priori, l'immobilier, c'est pas le secteur de prédilection de l'office parce qu'il y a d'autres mécanismes d'encadrement, dont ceux de la Régie du bâtiment du Québec qui émet les licences d'entrepreneurs en construction et qui est chargé de veiller à la compétence des entrepreneurs et à la solvabilité des entrepreneurs en construction. Puis on en parlait tantôt aussi, la garantie des maisons neuves qui, elle aussi, fournit des protections financières pour les acheteurs de maisons neuves. Mais donc, bref, il faut évidemment, quand on se lance dans des travaux, on ne veut pas blâmer personne ici, bien sûr, mais il y a des devoirs à faire et il y a des vérifications à faire. Il faut surtout ne pas donner son argent à quelqu'un sans beaucoup de vérifications.
Oui. Puis, mais quelles sont les vérifications?
Les gens qui sont extrêmement prudents peuvent quand même se faire rouler en bout de piste, mais à tout le moins, il faut faire beaucoup de vérifications.
Quelles sont ces vérifications? Auprès de qui on doit faire des vérifications avant de conclure une entente avec un entrepreneur?
Bon, ben d'abord, pour la plupart des travaux de construction ou de rénovation, ça prend une licence de la Régie du bâtiment du Québec et il y a différentes catégories de licences en fonction des catégories de travaux. Donc, il faut vraiment savoir dans quoi l'entrepreneur va être impliqué et qu'il ait justement les licences appropriées. Il y a toujours la question de l'entente aussi. Le contrat doit être détaillé. Si c'est des travaux majeurs, comme j'ai vu dans l'article, quelqu'un qui faisait carrément reconstruire une maison au complet, ça prend idéalement un professionnel du bâtiment pour faire des plans, examiner les soumissions, détailler le contrat et éventuellement faire de la surveillance de chantier. Quand on parle de 200 000 $ c'est rien de consacrer quelques points de pourcentage du contrat à payer un professionnel, architecte, ingénieur, pour qu'il y ait une responsabilité si jamais il y avait des choses qui tournaient mal. Ensuite, ben, on fait aussi des vérifications. On peut en faire à l'Office de la protection du consommateur. Cette entreprise a-t-elle fait l'objet de plaintes chez nous? Est-ce qu'il y a des poursuites? On regarde aussi au registraire des entreprises. Qui est cette entreprise précisément? Est-ce que le même propriétaire dispose de 12 entreprises différentes?
Et ça, d'habitude, c'est un signe que quelque chose ne tourne pas rond?
Ben, pas nécessairement, mais s'il en ouvre à tous les 6 mois, peut-être que oui. Et avec les noms précis d'entreprises, vous pouvez ensuite aller sur le site jugement.qc.ca, jugement au pluriel, pour voir s'il y a des démêlés judiciaires dans lesquels cette entreprise ou ces entreprises seraient impliquées. Et là, ben là, vous allez avoir une bonne idée, s'il y en a, que c'est peut-être quelqu'un à éviter. Ensuite, ben, les recherches usuelles sur les moteurs de recherche, les avis, est-ce qu'il y a des bons commentaires, et puis demander des références, demander des assurances, est-ce que cette entreprise a des bonnes assurances, et vérifiez-le. Et ensuite, est-ce que cette entreprise est capable de vous donner le nom de 10 clients satisfaits que vous allez appeler, que vous allez vérifier? Alors, vous voyez, c'est pas ça peut paraître fastidieux et quand même assez complexe comme ça l'est, mais
pour 200 000 $, je pense que ça peut valoir la peine de faire ces vérifications plutôt que de se dire j'aurais dû.
Je dirais que oui, à tout le moins, on prend pas le premier venu. On regarde 2, 3, 4 soumissions détaillées avec un plan de travaux détaillé. Et on se méfie des extras, bien sûr, parce que en cours de chantier, il peut y avoir, on peut avoir choisi l'entrepreneur qui a soumissionné le plus bas, mais qui va vous, tout le long du chantier, va vous interpeller pour rajouter un 10 000 $ ici ou un 10 000 $ là. Il faut voir aussi que les entreprises de construction bénéficient comme personne d'autre d'un privilège assez extraordinaire qui est celui des hypothèques légales. On appelait d'ailleurs ça auparavant les privilèges de construction.
Oui.
C'est-à-dire que s'ils ne sont pas payés, ils peuvent inscrire, ça leur coûte quelques centaines de dollars à peine, et elles peuvent inscrire une hypothèque sur votre propriété, une hypothèque légale. Et là, ben, ça sera à vous, si vous contestez de voir cette somme-là, ça sera à vous de contester l'hypothèque légale, et ça vous coûtera pas quelques centaines de dollars, mais plutôt quelques milliers de dollars. Alors, ça peut vite dégénérer quand on s'entend plus sur la qualité des travaux, quand le chantier n'avance plus, quand les délais sont reportés, les matériaux qui se font rares, la main d'œuvre qui se fait rare. Et je vous dirais que les bons entrepreneurs sont de plus en plus en demande, bien sûr, et donc ils sont parfois, ils vont même pas vous rappeler pour vous faire une soumission parce qu'ils sont débordés. Alors, tout ça milite pour une extrême prudence quand on confie des travaux de rénovation à quelqu'un.
Bien, on va appeler tous les propriétaires qui veulent faire des modifications sur leur terrain ou dans leur maison. L'été arrive, la période des grandes rénovations arrive, la période de la construction arrive. Redoublons de vigilance, faisons nos vérifications, nos sous, on travaille fort pour les avoir, c'est pas pour les donner à des fraudeurs qui prétendent être ceux qu'ils ne sont pas. Charles Tanguay, porte-parole de l'Office de la protection du consommateur et responsable des partenariats stratégiques. Merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
Des analyses sur le monde sans frontières. Savoir et comprendre l'international. Guillaume Lavoie.
Guillaume, parlons de l'Irlande du Nord. Qu'est-ce qui se passe en Irlande du Nord?
Yasmine, j'essayais de trouver une raison de mettre la Saint-Patrick dans nos échanges, puis je me suis dit, là, c'est en plein dans notre visage. L'Irlande du Nord, il faut que je vous reparle du Brexit. Vous savez, le Brexit, c'est cette maladie qui devait tout régler, qui finalement vous a rendu encore plus malade. C'est à peu près comme ça qu'on devrait l'expliquer honnêtement aux Britanniques. Alors, le problème le plus complexe de tous, c'est l'Irlande du Nord. Alors, voici un peu le portrait général. Le Royaume-Uni, c'est deux îles. L'île d'Angleterre, sur laquelle il y a le Pays de Galles, l'Angleterre et l'Écosse. Et l'autre île, un petit peu à l'ouest, qui est l'île d'Irlande. Là, pour rendre ça très simple, tout le monde a le même nom. Sur l'île d'Irlande, il y a deux pays. Au sud, il y a la République d'Irlande, qui est un pays à l'ONU et tout. Et au nord, c'est l'Irlande du Nord, qui n'est pas un pays, mais qui est un des royaumes du Royaume-Uni. Alors, quand vous décidez que tout ce beau monde-là est dans l'Union européenne, ça ne fait aucune distinction. Mais avec le Brexit, sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne, donc du marché commun, c'est sortir un morceau de l'île d'Irlande. Et il est là le problème, parce qu'à partir du moment où on s'en va, la frontière elle est dans l'eau, tout est très beau. Mais là, on dit, elle est où la frontière entre l'Union européenne et le Royaume-Uni? Et c'est un bordel. Parce que normalement, il y aurait une frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. C'est ça que ça devrait être. Mais on se souviendra qu'il y a eu pendant 30 ans une mini-guerre civile dans ce coin-là à cause du problème entre les catholiques et les protestants, entre les unionistes, ceux qui sont loyaux au Royaume-Uni, à l'Angleterre, et ceux qui disent non, il faudrait que toute l'Irlande ne soit qu'un seul pays. Alors, il n'est absolument pas question d'avoir une frontière physique sur l'île d'Irlande. Et là, c'était un bordel compliqué, Yasmin. Comment tu fais pour te séparer d'un pays en disant il peut pas y avoir de frontière? L'Union européenne se dit, je m'excuse, là, mais par exemple, il n'y a pas de barrière tarifaire entre le Québec et l'Ontario. Mais là, tu peux pas dire, moi, je fais partie de la même zone tarifaire, mais je suis plus dans l'accord tarifaire. Alors, la quadrature du cercle, c'est déjà encore trop simple pour expliquer le bordel total. Parce que s'il y a une frontière sur l'île d'Irlande, là, il y a un risque grave de ramener des troubles politiques incroyablement complexes
Évidemment.
En Irlande. Et si tu dis, bon, ben c'est correct, on remet de la frontière tarifaire entre l'île d'Irlande, entre l'Irlande du Nord et le reste de l'Angleterre, mais là, il y a une méchante gang de gens en Irlande du Nord qui disent, hey, nous, on se bat pour l'union avec le royaume anglais. Alors, si vous mettez une frontière entre les deux, ça va faire la part belle à ceux qui veulent séparer l'Irlande du Nord puis la faire s'unir avec le reste de l'Irlande. Alors, c'était presque impossible à réconcilier cette affaire-là. Méga problème. Et dans l'accord de Brexit, il y avait juste ce point-là que j'essaie d'expliquer, Yasmine. C'est 535 pages dans l'accord sur le Brexit pour y arriver. Les conservateurs étaient en train de s'auto-déchirer. D'ailleurs, Boris Johnson a sauté. Liz Truss a sauté aussi. Et là, c'est Rishi Sunak qui a, le nouveau premier ministre, le mandat de régler le problème. Et là, il vient de faire un nouveau deal avec l'Union européenne. Et là, il faut lui donner le crédit. Alors maintenant, ça s'appelle le Windsor Framework, l'accord de Windsor. L'Union européenne ne voulait absolument rien savoir de réouvrir cette boîte de verre qui est l'accord sur le Brexit. Il a réussi à avoir l'appui de la présidente de la Commission européenne. Ils ont réécrit un nouvel accord. Puis là, ça va être encore plus compliqué, là. C'est-à-dire que imaginez que vous êtes en Angleterre puis vous voulez envoyer des choses vers l'Irlande. Ben là, il va y avoir comme un corridor, puis ça, c'est des choses qui s'en vont en Irlande, donc en Union européenne. Puis d'autres choses qui sont des produits qui s'en vont en Irlande du Nord. Donc ça, c'est comme dans le même pays, mais ouais. Ça ne pourra pas traverser après. C'est un bordel innommable. Sur papier, ça a l'air plus simple. Dans la vraie vie, j'ai hâte de voir. Mais ça va devenir incroyablement compliqué. Et là, même si tout le monde là-dessus, ici souvent qu'il faut y donner ça, ils ont travaillé fort là, pour que leur accord soit bien reçu. Farid Zakaria, ce grand commentateur d'affaires internationales aux États-Unis, a dit que c'était pas génial, mais c'est le mieux qu'il pourrait y avoir. Même Joe Biden, bizarrement, s'est fait poser une question là-dessus et il a dit qu'il était favorable à l'accord. Alors, tout le monde a l'air de dire, ouais, peut-être que ça pourrait aller. Mais les unionistes, il y a trois gens dont il faut se méfier, là, trois groupes. Les unionistes irlandais, qui disent un instant, là, si vous mettez des frontières, même petites, entre nous et le royaume, nous, on débarque. Il y a les super Brexiteurs. Ça, c'est les ayatollahs du Brexit. Ils disent que non, c'est pas encore assez. Et Boris Johnson, qui est toujours en train de souffler dans le cou du premier ministre actuel, qui se dit, si jamais ça marche pas, peut-être qu'il y a une chance qu'on me demande de revenir. Alors là, tout ce monde-là se tient tranquille. Personne n'ose dire non au grand jamais, on ne signe pas l'accord. Mais là, il y en a qui commencent à dire « Ouais, l'accord n'est pas pire, mais il faudrait peut-être le réouvrir pour l'améliorer. » À un moment donné, dans les négo complexes, là, ça se peut que l'Union européenne dise « Nous, on est tanné de jouer dans le film. Vous avez voulu partir, vivez avec. » Donc, il n'y a plus y penser avant. On se rappellera que Boris Johnson disait « Ça va se faire facilement, il n'y en aura pas de problème. » Tout ça est super facile à régler.
Est-ce que tu as une idée, Guillaume, ça ressemble à quoi l'appui au Brexit aujourd'hui chez la population britannique?
C'est assez fou parce que chez la population britannique aujourd'hui, il y a une majorité de gens qui aimeraient avoir un nouveau référendum pour voter là-dessus. C'est quand même assez exceptionnel. Là. C'est quand même assez extraordinaire. Alors, ça ne veut pas présumer que le Brexit perdrait. Moi, je pense que le Brexit perdrait dans un nouveau référendum. Mais est-ce qu'un parti politique va se présenter en disant « Moi, j'aimerais ça reprendre la conversation. » Là, je suis moins sûr.
Ouais.
Surtout que l'Angleterre avait énormément d'avantages dans le dernier accord que les autres pays n'avaient pas. Ben là, imaginez un actionnaire qui avait plein d'avantages parce qu'il était là depuis longtemps. il s'en va, il revient. Je suis pas sûr que vous lui redonnez tous les avantages d'ancienneté qu'il avait là. Alors ils sont pas mal pris.
Guillaume Lavoie, bonne Saint-Patrick. J'espère que tu vas voir le défilé dimanche et qui va être de retour après 3 ans à cause de la pandémie notamment. On se retrouve lundi.
Bon plaisir.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346.
1-877-CUBE-RADIO.
Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
Steve Fortin est avec nous pour faire une petite revue de l'actualité, notamment politique. Bonjour, Steve.
Oui, salut, comment ça va?
Ça va très bien. Écoute, l'Assemblée nationale a voté une motion. Elle a été votée à l'unanimité. Qui dit, grosso modo, que le Québec n'est pas plus raciste qu'ailleurs? Puis il y a certaines personnes qui sont pas d'accord avec ça.
Ben oui, on dit l'unanimité, mais j'ai remarqué sur le compte Twitter d'Alexandre Brassard, qui est conseiller politique au cabinet de la ministre du Tourisme, il disait que lors du vote de cette motion-là, tiens, étrangement, le député de Québec solidaire de Maurice Richard, Arun Boisy, il était pas là. Donc, il était absent quand on a voté ça, fait l'unanimité de ceux qui étaient là. Mais oui, en gros, mercredi, donc, à l'initiative du ministre Roberge, on a voté cette motion-là, et puis c'est pas étranger, là, comme on le disait dans un texte du Journal de Montréal, Journal de Québec, c'est pas étranger à la sortie d'un organisme canadien uni contre la haine qui disait que le Québec, c'est l'épicentre de l'islamophobie. Puis on va se le dire, là, de toute façon, le simple fait de mentionner cette motion-là dans certains journaux, notamment des journaux anglophones, je pense aux Gazettes, par exemple, leurs réseaux sociaux ont été inondés de commentaires qui étaient tous les plus répugnants les uns que les autres. Puis il me semble que quand on regarde les indicateurs, plusieurs indicateurs le montrent. Et puis c'est pas une façon pour le Québec, de toute façon, de dire on se tape pas des mains en disant on est moins ou plus. C'est un simple fait, c'est de le rappeler, parce qu'on a parfois l'impression très désagréable que justement il y a une petite frange de gens très militants qui aimeraient essayer d'imposer ce narratif-là, comme quoi justement le Québec c'est l'épicentre de racisme, d'islamophobie, de tout ce qu'on voudra, de toutes les phobies du monde, alors que dans le fond le Québec par rapport au Canada par exemple, c'est certain que il y a quelques dossiers par rapport auxquels il est en contradiction avec le Canada, notamment quand on parle de dossiers identitaires ou d'adhésion au multiculturalisme, par exemple, ou sur les questions de religion. Mais tu sais, c'est ça. Puis je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose aussi que Québec solidaire, le Parti libéral, qui sont tous les deux opposés à la loi 21 farouchement, ils ont dit eux aussi, c'est pas vrai que c'est plus raciste au Québec qu'ailleurs. Puis pour moi, ça, c'était salutaire quand même de le mentionner.
Le Québec n'est pas raciste comme nation, comme peuple, comme province. Est-ce qu'on peut dire, par contre, qu'il existe, il y a du racisme, comme partout ailleurs? Est-ce qu'on peut reconnaître l'existence du racisme et se donner les moyens de lutter contre le racisme?
On peut, tout le monde, je pense pas qu'il y ait personne au Québec qui ne reconnaît pas l'existence du racisme. Cependant, si on veut parler de systémique dans le racisme et de cette notion-là qui procède d'un abordage idéologique, à tout le moins, en tout cas, il y a une idéologie, puis il y a certainement un fondement idéologique à ça. Et je me souviens, quand il était arrivé l'histoire de Joyce Echaquan, j'avais publié dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, un texte où je parlais justement du racisme systémique et je disais, là, je paraphrase, si une telle chose existe, on en a là une manifestation. Puis j'avais aussi parlé des travaux, j'y vais de mémoire, là, mais il y avait le médecin volant là, qui à un moment donné était venu, puis il avait parlé de la réalité, des communautés autochtones versus le système.
Mais toi, penses-tu que ça existe, Steve? Le racisme systémique?
Moi, quand je l'avais écrit, justement pas, là, tout le monde, les gens savent, là, quand on chronique dans le journal, les gens savent, moi je suis pro-loi 21, puis tout de suite, là, j'avais été complètement submergé. Parfait, si t'es prêt à accepter que le racisme systémique existe, là maintenant, il faut défaire la loi 21, parce que ça, c'est du racisme systémique et tout ça. Le gouvernement, s'il se met le bras dans cet engrenage militant-là, c'est terminé. On va lui dire, ben là, maintenant, il faut défendre la loi 21, il faut défendre la loi 96, parce que c'est du racisme.
Mais non, mais si on est, tu sais, pour moi là, le racisme ou la langue française ou tous les sujets disons plus identitaires sont plus importants que juste les lois qui y font référence là. Tu sais, le principe de laïcité, le devoir de protéger la langue française, c'est plus fort que la loi 96 et plus fort que la loi 21. Tu sais, dans ce sens-là.
Oui.
C'est important.
Oui, oui, t'as raison, Yasmine, mais l'affaire qui arrive là-dedans, c'est qu'on n'est jamais bien loin, puis d'un côté comme de l'autre, là, on n'est jamais bien loin d'un militantisme qui, lui, fait et défait des gouvernements, puis fait et défait, si on veut, le vent qui est en poupe pour les partis politiques. Je veux dire, tu sais, faut quand même pas oublier que d'aussi longtemps qu'on se souvienne, à un moment donné, quand Mario Dumont était à la tête de la DQ, ben je veux dire, le dossier identitaire le servait bien, le Parti québécois le fait, le Parti libéral le fait. Les dossiers identitaires, ça fait partie de notre paysage politique, des fondements de notre politique, la façon qu'on le. Il n'y a pas que ça, mais c'est important. Donc, quand on considère ça, il faut faire attention avec les comment on va aborder un dossier comme celui-là. Moi, je préfère des gens qui, par exemple, à l'intérieur de la communauté autochtone, et j'en connais, qui plutôt que de dire, ben, je peux pas perdre mon temps à essayer de faire absolument reconnaître par le gouvernement c'est quoi le racisme systémique. Ben, dans la région de la Naudière, plutôt, ben, on a créé un centre d'amitié autochtone. Ça faisait longtemps qu'on le voulait. Ça faisait longtemps que les gens de Manouane, par exemple, se disaient, mais ça n'a pas de bon sens, le lien qu'on a avec le CLSC, puis ensuite avec l'hôpital. Tu sais, puis on a travaillé là-dessus, puis on a dit, ben, voilà, la sécurisation culturelle, ben, c'est important. Puis on va faire avancer des principes comme ça. Puis on va pas attendre que ce soit reconnu par le gouvernement. On va y aller, puis on va travailler sur le racisme lui-même. C'est la même chose sur la Côte-Nord. C'est la même chose aussi en Outaouais, par exemple, au lac Barrière ou à Rapid Lake et tout ça. Là.
Alors, comment faire pour lutter contre le racisme? Tu sais, je te le dis, là, Steve, là, puis pas plus tard qu'avant-hier, j'ai reçu un message, puis je l'ai d'ailleurs posté sur Facebook, de quelqu'un. Moi, au deux, trois jours, il y a quelqu'un qui me demande de retourner chez nous dans mon pays.
Ben, il t'a jamais entendu, puis c'est quelqu'un qui...
Non, mais il m'a vu à ajoute, puis il m'a dit... « Hey, je t'ai vu à ajoute, là, si t'es pas contente, retourne dans ton pays. » On fait quoi avec ces personnes-là? Ça, c'est-tu du racisme, de la xénophobie, de l'ignorance, de la... On fait quoi avec ce monde-là? Ça existe-tu, ça existe-tu pas?
On le dénonce, on continue à le dénoncer, puis il y aura toujours des intolérants. On ne va pas être capable de d'éliminer complètement l'intolérance. Puis je l'ai vécu dans le sport en Outaouais, je l'ai vécu sur la fracture linguistique, bien entendu, ayant été élevé en Outaouais. Mais ce qu'il faut, par contre, c'est rendre certains comportements complètement hors de la norme sociale, tellement qu'à un moment donné, on ne le fait plus. Puis, c'est drôle parce qu'on a parlé de ça ensemble avec Marie, toi et moi. On a parlé de ça, par exemple, au hockey. Il fut un temps où il n'y avait aucun problème. Tu te promenais sur la glace, puis il y a un des premiers noirs dans la Légion majeure du Québec, qui s'appelait Réginald Savage. Puis, je veux dire, lui, là, il a passé à travers tout ça. Puis quand on a commencé à parler de ce dossier-là, par exemple, on a dit, ben là, c'est terminé, puis on va suspendre les joueurs qui font ça, puis les arbitres vont le faire, et tout ça, ils ont rappelé Réginald Savage, puis je me souviens, il avait même été à TVA Sport, puis je veux dire, là, à un moment donné, ça devient complètement en dehors de la norme sociale, on peut plus le faire, mais on va faire comme ça avec le racisme, on va faire comme ça dans nos relations avec, par exemple, certaines des minorités, ben toutes les minorités qui sont ici, mais certaines minorités qui vivent s'il y a une telle chose que le systémique dans le racisme existe, comme justement les nations autochtones. Puis ça va devenir tellement hors de la norme sociale qu'à un moment donné, ben on va avoir agi sur ce front-là. On va pas éliminer le racisme, mais on va certainement, en tout cas, le rendre tellement répugnant qu'à un moment donné, ben il va être si hors de la norme sociale que ceux qui vont le pratiquer, ben ils vont être un peu comme mis au rencard par eux-mêmes, par leur comportement qui est hors norme.
Qui vont s'exclure finalement de la norme de sociétale.
J'espère. Puis c'est déjà commencé. C'est commencé dans la fonction publique. C'est commencé dans plusieurs de nos organismes qui, à un moment donné, se sont rendus compte que, effectivement, que c'est bon, ça existait déjà avec quand on a décidé qu'on voulait avoir une parité. Puis c'était la moindre des choses, je veux dire, avec les femmes. Mais ensuite, on l'a développé avec les minorités aussi. C'était pas normal, par exemple, que la force policière à Montréal soit composée. Ouais. Tel pourcentage de gens blancs, puis je veux dire, la métropole, ben elle se diversifiait, mais le corps de police, lui, qui est supposé d'être là pour servir les gens, c'est dans leur mission, ben lui ne se diversifiait jamais. Ben, tu sais, là, maintenant, ça, c'est hors norme. Oh, c'est puis une chance que c'est comme ça. C'est comme ça qu'on avance.
Heureusement. Sinon, parlons d'un autre sujet qui nous tient très occupés, celui de la fonderie Horn. Et le gouvernement a décidé, en fait, a annoncé hier qu'il resserrait la vis, mais pas trop, à ce géant milliardaire qui est Glencore. On va créer une zone tampon qu'on va verdir. On va déplacer 200 familles, 80 bâtiments. Mais ça ne va pas être obligatoire. Une partie va être payée par le gouvernement. Est-ce que tu comprends quelque chose, Steve?
Ah, écoute, le ministre Lacombe qui dit on va forcer personne de parce que c'est lui, c'est cette région-là, et c'est lui qui s'en occupe, hein, il est le ministre responsable de cette région-là. Non, on va forcer personne. Puis ensuite, le ministre de la Forêt qui dit, ben non, mais à un moment donné, il va falloir que les gens, ça prendra peut-être 3, 4, 5 ans, mais les gens vont devoir partir. On souffle le chaud et le froid. Dans le reportage, il y avait un reportage justement là que j'ai pris à LCN où on voyait une des dames qui habite là-bas qui disait, ben nous, on tu sais, ça avait jamais été dans les cartons. Manifestement là, cette dame-là avait fait partie des comités de citoyens, s'informer tout ça, puis on me disait non, c'est pas dans les plans. Puis on apprend dans les médias que finalement, ben voyez-vous, ça arrive. Puis quand on regarde là, la photo avec le quadrilatère de maison, la fonderie Horn, puis en dessous, le quadrilatère de maison. Puis là, on dit, ben, ces maisons-là vont être déplacées. Si moi, je suis propriétaire d'une des maisons sur la ligne, là, celle qui touche...
La première, là. Arrière, c'est
ouais, ça. La première, tu te dis, mais OK, eux partent, ben moi, je pars pas. Puis, je veux dire, on parle ici de mesures par million dans l'air, puis mon voisin, là, sa piscine, elle touche la mienne. Mais lui, il faut qu'il parte, mais moi, je pars pas. Je veux dire, il y a quelque chose là-dedans qui fonctionne pas. Puis, on a toujours l'impression que dans ce gouvernement-là, ce sont les intérêts des gens, j'imagine, qui lobbyent le gouvernement pour la fonderie Horn qui prime avant ceux de la population, parce qu'on protège toujours d'abord et avant tout le droit de polluer de cette multinationale-là. Puis on ne devrait pas verser un sou pour ça. Là, je veux dire, c'est plusieurs fois milliardaire. On ne devrait pas verser un sou pour ça. Puis son petit opère, ben OK, mais je veux dire, jusqu'à un certain point, moi, j'en peux plus là, de ça. Il faut que la santé publique prime avant tout, puis certainement avant les intérêts là, pécuniers, financiers des investisseurs puis de cette compagnie-là.
Mais Steve, imagine que le gouvernement va même verser de l'argent à la ville pour que celle-ci puisse décontaminer le terrain. Hey, c'est Québec qui paye pour la décontamination du terrain de la fonderie Horn qui est milliardaire.
C'est le secteur minier, c'est plate, hein, mais tu sais, j'imagine que c'est pas 100%, là. Il y a toujours des zones de nuance, mais tabarnouche. Dans le Grand Nord, à un moment donné, on voyait ça, là, les sites qui sont là, c'est abandonné, c'est laissé dans un état pitoyable. C'est pas juste au Québec, soit dit en passant. Puis, je veux dire, à un moment donné, il faudrait que cette responsabilité-là, qu'il y ait comme une espèce de responsabilité sociale de ces entreprises-là, puis qu'on se dise, ben OK, là, vous opérez, vous faites des profits faramineux, ben le moindre que vous puissiez faire, c'est bien ça, c'est bien de décontaminer, puis de, tu sais, je veux dire, c'est là. Il me semble que ça devrait venir avec. T'opères pas si tu respectes pas ça. Mais, tu sais, on voit là, ils vont respecter la norme avant 2027. S'ils respectent pas, comment ça se fait qu'on suspend pas tout simplement l'endroit? Ben, on va dire, oui, il y a des gens qui travaillent, c'est leur gagne-pain, ça ferait une crise économique régionale, je veux bien, mais c'est comme s'il n'y avait pas de dents là-dedans. C'est comme s'il n'y avait jamais de moyens assez coercitifs pour dire, ben cette compagnie-là va nous prendre au sérieux, puis on va changer les façons de faire. C'est tout. On va les changer. On n'a pas le choix.
C'est assez particulier comme dossier. Puis André Laforêt nous a habitués à être beaucoup plus rigoureuse dans les dossiers qu'elle tient et les dossiers qu'elle mène. La ministre des Affaires municipales n'avait pas l'air très solide hier en point de presse et les explications étaient un peu particulières. On comprend pas pourquoi on fait preuve d'un aussi grand laxisme, d'une aussi grande mollesse avec le géant Glencore.
Ce matin, moi, je salue le point de presse. C'est sûr qu'on n'a pas entendu beaucoup parler, mais à l'Assemblée nationale, Alejandra Zanger-Venguez de Québec solidaire, donc elle a parlé de ce dossier-là ce matin avec aplomb. Puis elle a justement pointé vers certaines des incohérences, je veux dire, manifestes là-dedans. Puis ben tant mieux. Puis il faudra que les parlementaires continuent à talonner le gouvernement là-dessus. Là. C'est absolument essentiel.
Finalement, parlons de cette éminente didacticienne qui appelle à avoir plus de mesures pour protéger notre langue.
Oui, donc Mme Chartrand, qui depuis longtemps, donc étudie ça et c'est une référence par rapport justement aux questions linguistiques. Puis pourquoi je veux qu'on parle de ça, c'est que quand une personne comme ça, quand un universitaire ou un universitaire de renom, là, tu sais, qui a une crédibilité, je veux dire, établie dans un domaine, se prononce sur un sujet, je trouve que c'est important. Et dans ce cas-ci, ben, tu sais, je fais un petit peu de millage, si on veut, là. Je fais du pouce sur le fait que quelques heures, là, parce que deux jours après le lancement de la publicité du gouvernement, ben là, la poussière retombe, puis tout à coup, ben, il y a des voix pour s'élever puis dire, bon, OK, peut-être que ça ratait. C'est vrai que c'était, je vais utiliser un mot que ma fille utilise beaucoup, c'était cringe, mais tu sais, dans les faits, là, je veux dire, on vise quand même là-dedans. Il y a quelque chose qu'il faut souligner. Puis s'il y a une part probablement assez, plus importante qu'on pense des jeunes justement de la génération de ma fille, puis un petit peu plus vieux qui utilisent ça, mais qui maîtrisent très bien leur français. N'oublions jamais que le Québec, à titre de nation, a vraiment un problème pandémique. Et quand Mme Chartrand se prononce puis nous rappelle justement certains des fondements théoriques de ça, puis qui nous expose littéralement que c'est effectivement le cas, puis qu'il faut des mesures plus fortes, notamment justement dans nos écoles secondaires, puis jusqu'au cégep et même à l'université, ben il faut le faire.
Évidemment.
Moi, j'ai arrêté d'enseigner à l'UQO à l'Université du Québec en Ottawa en 2018, puis les cours, j'étais au département des études langagières, puis les cours de rattrapage en français, je veux dire, c'était la norme. Puis c'est pas normal qu'on soit en train de faire des participes passés à la deuxième année d'université à des futurs profs qui sont au département d'éducation puis qui échouent les uns après les autres les différentes incarnations du PESTECFE ou tu sais, je veux dire, c'est pas normal ça. Puis pourtant, ben c'est ça qu'on vit, puis il va falloir s'y attaquer.
Steve Fortin, merci beaucoup. Bonne fin de semaine.
Ben à toi aussi, on se parle lundi.
Au revoir.
Nom, Abdel Fadel. Prénom, Yasmine. Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Force, connaissance accrue de la politique et une polyvalence hors du commun. Yasmine Abdel Fadel.
Un jeune adulte de 19 ans aurait poignardé trois membres de sa famille. Un véritable carnage qui a eu lieu plus tôt aujourd'hui dans le quartier Rosemont. Les corps ont été découverts dans un duplex à Montréal vendredi matin. Le suspect a été arrêté et il était connu pour des problématiques de santé mentale. On en parle avec André Gélina, sergent détective retraité du SPVM. Bonjour André.
Salut Yasmine.
Alors, qu'est-ce qu'on sait de ce dossier-là?
Écoute, pour l'instant, on a quand même des éléments assez fragmentaires. On sait qu'il y a trois victimes. On sait qu'il y a un suspect là, d'âge quand même assez jeune, un jeune adulte qui aurait été arrêté possiblement armé d'un couteau. Les policiers ont dû là, le maîtriser avec du poivre de Cayenne. Il semblerait qu'il était lui-même couvert de sang. Et qu'il y aurait trois personnes adultes là, qui auraient été vraisemblablement assassinées à l'aide d'un couteau. Est-ce que l'individu arrêté, c'est effectivement lui là, qui a commis les crimes? Bon, on peut s'en douter, mais c'est sûr et certain que, là, que c'est l'interrogatoire et l'étude de la scène et rencontrer les témoins qui va pouvoir venir confirmer ça.
Bien, parlons-en de la scène. D'après les premières informations qui ont été publiées, les corps des victimes auraient été trouvés tantôt à l'intérieur, un corps à l'extérieur. Comment on approche une telle scène de crime lorsque c'est aussi sanglant?
Bien, il y a deux aspects. Il y a l'aspect opérationnel, c'est-à-dire les premiers policiers qui se rendent sur les lieux, qui, eux, évidemment, c'est un appel qui est traité là en priorité numéro un. Les policiers vont faire une approche sécuritaire, ils vont obtenir un peu d'informations de la personne ou des personnes qui ont signalé. Des fois, ça peut être des personnes à l'intérieur, des fois, ça peut être des personnes à l'extérieur. Par la suite, la première priorité, c'est d'assurer le contrôle du suspect pour, un, s'assurer de notre sécurité, puis aussi pouvoir aller secourir les personnes là, qui sont en danger, blessées. Par la suite, un coup que l'individu est sécurisé, on secourt les blessés et aussi par la suite, on protège la scène de crime. Bon, c'est ce qui nous amène à la deuxième étape, plutôt au niveau de l'enquête. La scène de crime, ce qui est difficile dans une situation comme ça, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont pu pénétrer à l'intérieur, que ce soit des gens d'urgence santé, que ce soit des médecins, que ce soit des policiers. Et ça, on n'a pas le choix, malheureusement. Il faut vivre avec cette contamination-là. Et c'est pourquoi, des fois, on voit des images d'une scène de crime, puis on voit encore les pansements qui traînent par terre, des choses comme ça. Il n'y a pas de ménage qui se fait tant et aussi longtemps que les spécialistes d'identité, les enquêteurs n'ont pas passé au travers, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une scène de crime va nous parler. Il y a des projections de sang qui peuvent nous indiquer à quel endroit le crime a été commis ou certains crimes ont été commis. Un paquet de choses comme ça qui vient nous donner de l'information, qui va, un, nous permettre de mettre un peu les choses dans l'ordre, de comprendre la séquence des événements, et aussi va venir alimenter en vue de faire l'interrogatoire du suspect.
Quand on reçoit un appel qui rentre par le 911, par exemple, faisant état de quelqu'un qui d'une problématique comme celle-ci, quelles sont les décisions qui sont prises par les policiers pour avoir le bon matériel, le bon nombre de personnes et la manière avec laquelle on approche la scène?
Bien, en premier lieu, il faut comprendre que l'appel va rentrer au niveau du 911, puis après ça, va être acheminé à la répartition. Bon, dépendamment des informations disponibles puis du niveau de dangerosité qui va être évalué à la base, c'est sûr que la répartition va envoyer soit un véhicule du haut ou deux ou trois véhicules du haut, là, dépendamment de ce qui est disponible puis de l'information qu'on a. C'est sûr que les policiers, des fois, vont tenter de contacter le plaignant parce que là, mettons qu'on émet l'hypothèse que c'est un voisin qui entendait des cris, mais c'est sûr qu'on peut réussir à communiquer avec le plaignant en s'en allant pour essayer de grappiller le plus d'informations possible qui va justement nous aider à planifier de façon sécuritaire notre intervention. Mais c'est sûr que d'emblée, lorsqu'on sait que quelqu'un est armé d'un couteau puis il y a des personnes qui sont blessées à coups de couteau, mais c'est sûr et certain que les policiers se préparent au pire. Parce qu'encore une fois, quelqu'un qui est armé d'un couteau, ben c'est sûr et certain que au minimum, les armes intermédiaires sont envisagées et ultimement, ça peut être l'arme à feu, mais tout va dépendre aussi du niveau de collaboration de la personne puis de la capacité qu'on va avoir d'établir un contact avec elle.
À quel point est-ce important, puis comment les policiers font en sorte de pouvoir récupérer le suspect, appréhender la personne qui reste sur les lieux de manière à ce que sans finalement attenter à sa vie?
Ben, tu sais, à un moment donné, là, ce que les gens faut qu'ils comprennent, là, c'est que nous, là, on contrôle pas tout. On peut essayer de le contrôler du mieux qu'on peut, mais quelqu'un, exemple, puis ça veut pas dire que c'est le cas présentement, parce que là, de toute évidence, là, il y a pas eu d'effusion de sang lors de la maîtrise du suspect, mais en général, c'est un peu le comportement du suspect qui va dicter nos interventions. On peut essayer de le calmer, on peut essayer de rentrer en contact avec lui, on va le localiser, on va l'isoler, on va essayer de le contrôler dans un endroit pour en prendre le contrôle par la suite. Mais encore une fois, tout va dépendre de ses agissements et malgré toutes les techniques et la formation qui peut exister, quelqu'un qui est plus en contact avec la réalité, qui est en crise, ben, faut comprendre que même s'il y avait un psychiatre à côté de nous autres, il réussirait probablement pas plus à rentrer en contact avec lui. Mais c'est sûr que nous, on recherche toujours la résolution pacifique et sans effusion de sang, mais à un moment donné, on n'a pas le choix de réagir face à la menace si toutes nos tentatives et nos techniques ne fonctionnent pas pour en arriver à une résolution là, vraiment sont pacifiques, comme je te l'explique.
Ce que je me demandais, c'est les policiers qui sont rentrés, là, les premiers ouais. À être rentrés là-dedans, là. C'est pas facile. Là. Les policiers, c'est des êtres humains avant tout, puis c'est des pères et des mères de famille. Comment s'assurer que les policiers aillent bien après ça?
Bien, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un appel comme ça, c'est épouvantable. De un, on s'en va là-dessus avec l'adrénaline là, au plafond, ça c'est clair, parce que de un, notre but ultime, c'est pas juste d'arrêter le suspect, mais c'est d'arriver à temps puis de sauver des vies. Et ça c'est vraiment là, ce qui nous anime le plus. Et là, quand on rentre, souvent, ben là, on fait face au carnage. Moi, ça m'est déjà arrivé un événement comme ça. Heureusement, les gens n'étaient pas décédés. C'était un fils qui était schizophrène, qui avait poignardé son père et sa mère. Et je peux te dire que l'impression que j'avais, c'est que quelqu'un avait lancé du sang sur les murs avec une chaudière. C'est vraiment, là, tu sors des fois d'appels comme ça, puis tu vas nettoyer tes bottes avec un boyau d'arrosage parce qu'il y a du sang partout. Puis là, il faut comprendre aussi, selon les informations qu'on a, le gars était plein de sang. Fait que donc, il y a des dangers de contamination parce qu'on connaît pas son état de santé. Et que c'est assez terrible parce que ce sont des images qui peuvent venir nous hanter encore par la suite pendant bien des jours, bien des semaines. Puis tu sais, on se rappellera l'événement assez tragique, là, très tragique là, de Guy Turcotte qui avait littéralement assassiné ses
bien
enfants.
Sûr.
Ben, il y a un policier qui n'a pas pu vivre avec le souvenir de ce qu'il a vu, puis il s'est suicidé plusieurs années après. Fait que donc, dans des cas comme ça, on est quand même assez bien soutenu. Aujourd'hui, il y a le programme d'aide aux employés qui peut même se déplacer sur les lieux. Et par la suite, il y a des rencontres qui peuvent être organisées avec les policiers qui en ressentent le besoin. Mais encore une fois, c'est des images épouvantables. Tu sais, c'est épouvantable pour les témoins, les gens qui l'ont vécu, mais ça l'est tout autant aussi pour les policiers qui arrivent sur les lieux, parce que même si on est entraîné, même si on est sélectionné, qu'on a des caractéristiques de caractère qui nous permettent de survivre à ça, il en demeure pas moins qu'il n'y a aucun entraînement qui peut nous préparer au pire.
Espérons que les policiers et tous les premiers répondants, parce que les paramédics aussi, qui sont les premiers à être là, vivre des moments aussi, peuvent vivre des moments de détresse suite à des événements comme ça. C'est des êtres humains. Et c'est pas parce que ce sont des personnes qui vivent toujours sur l'adrénaline qu'ils ont des capacités surhumaines pour faire face au drame puis de vivre avec, là. Important d'aller chercher l'aide nécessaire pour passer à travers puis de s'assurer que ça ne nous marque pas pour le restant de nos jours. André Gélina, c'est toujours un plaisir de vous parler.
Pareillement. Bonne journée.
Bonne journée.
Yasmine Abdel-Fadel. Des opinions tranchées. Des propos divergents. Pour s'informer tout en divertissement. Savoir et comprendre, Yasmine Abdel-Fadel.
En direct à LCN.
14h30, moment où on va joindre la collègue Yasmine Abdel-Fadel dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine.
Bonjour Marianne.
Encore aujourd'hui, un drame épouvantable. Ça fait beaucoup de tristesse, Yasmine, beaucoup de colère, d'horreur en quelques semaines à peine au Québec. Quel genre de réflexion, de chantier, de plan d'action ça va prendre?
Va falloir qu'on se parle. Je pense qu'il va falloir qu'on se parle parce que la montée de la violence sur différents plans de la société là, est en hausse fulgurante. La violence faite aux femmes, la violence au travail, les chiffres étaient sortis. Là, on voit qu'il y a de la violence gratuite, à Laval, la garderie de Laval. Mmh. On voit la personne aujourd'hui qui a assassiné des membres de la famille. On dit beaucoup trop de fois, je trouve, le mot scène d'horreur. Scène à glacer le sang. On parle trop de ça. J'ai l'impression qu'on est passé de quelques événements relativement anecdotiques de temps en temps à plusieurs fois dans le cadre de 2-3 mois, là, à plusieurs reprises où tout arrête, espace de 24 heures, 48 heures. Quand on parle, on découvre c'est qui cette personne, quels sont les problèmes qu'elle avait. Et c'est comme si on oubliait puis on passait à autre chose. Puis quelques jours plus tard, ça nous ramène à, encore une fois, l'horreur, la scène de crime. Je pense qu'on a on a des questions à se poser, Marianne. On a des questions à se poser sur est-ce que on soutient tout le monde correctement? Est-ce qu'il y a de l'aide qui devrait être octroyée et offerte? Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir des régions qui ne soient pas desservies, qu'il y ait une découverte en santé mentale? Et en même temps, on se doit également de se poser des questions. La santé mentale, est-ce que ça a le dos large, un peu comme la pandémie puis la pénurie de main-d'œuvre où on met tout ça là-dedans, là, puis on essaie de justifier l'injustifiable?
On fait un amalgame.
Ouais. Tout est une question de santé mentale parce que nous qui regardons ça avons besoin des mécanismes de défense pour essayer de justifier l'injustifiable, d'expliquer l'inexplicable. Et est-ce qu'on utilise la santé mentale pour essayer de dire, OK, il doit y avoir une raison, la raison doit nécessairement être la santé mentale? Il va falloir aller au bout de tout ça. On ne peut pas juste continuer à accumuler les violences et de commencer à s'habituer. Parce que s'habituer à la violence, s'habituer au meurtre, s'habituer au crime de la sorte, ce serait la pire chose qui puisse arriver à notre société.
Oui, c'est essentiel également de ne pas stigmatiser tous ceux et celles qui souffrent de santé mentale à travers aussi tous ces exercices de réflexion que l'on a. Parlons par ailleurs maintenant de Volkswagen qui va construire, on le disait un peu plus tôt cette semaine, sa méga usine de batterie en Ontario, à Saint-Thomas, et non pas au Québec, alors qu'on a une filière batterie. Pour le ministre Pierre Fitzgibbon, on dit on ne pouvait pas fournir l'énergie nécessaire à Volkswagen. C'est la preuve qu'il faut accélérer la réalisation de lignes de transmission. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Moi, j'ai trouvé la sortie de Pierre Fitzgibbon excellente, à propos et justifiée. Pour quelle raison? C'est qu'il y a quelques semaines, il essayait de nous expliquer, peut-être même un peu maladroitement, qu'on va avoir besoin d'électricité, qu'il va falloir augmenter notre capacité aussi à le faire venir de là où on les produit, que ce soit à Churchill Falls, le Labrador ou autre. Mais on n'arrivait pas encore à avoir un exemple qui parle de lui-même, là. Et là, on l'a. Volkswagen, c'est un exemple qui parle par lui-même. Ils se sont décidés d'aller en Ontario parce qu'ils ont besoin d'être approvisionnés en hydroélectricité notamment. Nous, on a l'hydroélectricité, on n'a pas la capacité d'aller la ramener jusqu'à Montréal. Il y a la question de la pénurie de main-d'œuvre. Et là, il arrive à dire, ben regardez, si on avait eu la capacité de faire venir cette hydroélectricité ici, on aurait peut-être pu être compétitif et peut-être même avoir Volkswagen. C'est une usine, là, puis ça, ça va pas changer.
Un exemple concret, en fait.
Mais par contre, cet exemple-là est important parce qu'il y en aura d'autres constructeurs automobiles qui vont se lancer dans la construction d'usines à batterie. Là. C'est le chantier, là. Il est en train de s'ouvrir. De plus en plus, ils vont annoncer des usines de batterie. Et c'est important pour qu'on puisse compétitif d'avoir des projets qu'on se réveille pas dans 10 ans pour dire, ouais, on aurait dû investir. C'est le moment, c'est maintenant qu'il faut investir dans notre hydroélectricité.
Merci beaucoup pour ces réflexions, Yasmine.
Merci, Marianne. Bonne fin de semaine. Et voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Je vous laisse avec ma collègue Sophie Durocher. Je vous donne rendez-vous lundi, 13h30. Cube Radio.